On a maintenant au téléphone avec nous Michel Cordé pour nous parler d'un nouveau projet qui s'appelle Espace réservé. Bonjour Michel.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien, merci.
Parle-nous, Michel, de Espace réservé, qui est ton nouveau projet.
Oui, bien, Espace réservé, en fait, c'est une nouvelle émission qui arrive sur les ondes d'Annie TV cet hiver. C'est un grand plateau de discussion, en fait, où à chaque semaine, on touche un grand enjeu de société, en fait, qui touche les personnes handicapées. Puis on a des invités qui sont à la fois des gens qui vivent dans ces grands enjeux-là, puis d'autres qui font peut-être plus partie des solutions. C'est des discussions, en fait, entre tous les intervenants pour essayer de trouver des pistes de solutions pour une société qui est plus inclusive.
Peux-tu nous donner donc une idée des sujets qui sont abordés?
Oui, absolument. On a fait 7 émissions. Donc, on parle d'éducation postsecondaire, on parle de transport adapté, on parle de logement, on parle de l'emploi, on parle de culture, de technologie, entre autres. J'en oublie.
Oui, mais bon, c'est pas grave. Les gens pourront aller voir sur Internet pour avoir la liste complète et on va pouvoir voir ça quand ça va être diffusé. C'est diffusé bientôt, d'ailleurs. C'est diffusé au mois de février.
Oui, ça commence le 19 février.
Et tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Tu seras aux côtés de Dominique Sillon.
Oui, Dominique et moi, on se partage la co-animation de cette émission-là. Donc, on travaille ensemble là-dessus. C'est une émission aussi dans laquelle on nous a demandé d'amener un petit peu une touche, notre touche d'humour personnel, étant donné que c'est des sujets qui sont parfois un peu difficiles, puis un petit peu, qui peuvent parfois être un petit peu lourds. Donc, nous, notre tâche, c'est d'alléger un petit peu le ton sur ce plateau-là, puis d'amener un petit côté humoristique dans l'émission aussi.
Et puis, parle-nous de ce que vous avez découvert ou de ce que tu sais déjà, parce que tu es toi-même en situation de handicap. Là.
Oui.
Quels sont les principaux défis en 2026 pour les personnes en situation de handicap? Parce que notre société est aussi inclusive qu'on aime le dire.
Malheureusement, non. En fait, c'est fou à quel point on a appris en faisant cette émission-là. Parce qu'on se rend compte que peu importe le sujet qu'on touche, l'information, elle est très, très, très éparpillée, puis c'est dur pour une personne de se mettre bien au courant des solutions ou des différents enjeux. En fait, on a rencontré tellement de personnes qui travaillent sur des dossiers, mais qui sont un petit peu dans leur coin pour des organismes à gauche ou à droite, puis qu'on ne sait pas nécessairement qu'ils existent. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de communication d'un côté qui reste à faire pour améliorer l'accessibilité universelle, mais aussi on se rend compte que un petit peu partout, le gros défi, c'est le financement. Puis, je dirais aussi, un des éléments qui était bien important pour nous à l'émission, c'était d'aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs dans le monde pour essayer de trouver des exemples d'initiatives selon les différents sujets dont on pourrait s'inspirer ici au Québec. Puis on s'est rendu compte que ça existe des endroits où pour le logement ou pour l'accès à la culture, on peut parler notamment du Royaume-Uni, là, qui est un endroit qui revenait souvent dans nos exemples. Il y a une manière de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour amener des changements ici dans la société québécoise.
Quelle initiative t'a le plus inspiré? Y a-t-il quelque chose que t'as vu que t'as fait « Oh, ça, c'est vraiment une bonne idée, puis on devrait faire ça ici?
» Ben, en fait, c'est une très bonne question.
Merci.
On réalise que chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques qui arrive à quelque part, il y a souvent des Jeux paralympiques qui suivent. Donc, ça devient souvent le moteur pour rendre la société plus inclusive.
Oui,
en fait, c'est
oui.
Ça qui est arrivé à Londres, par exemple, en 2012. Donc
ça nous prend des Jeux olympiques.
Ça nous prendrait peut-être des Jeux olympiques pour corriger ce qui a été mal fait dans les années 60-70. Mais je dirais que c'est un exemple parmi d'autres, mais on pourrait aussi parler en Espagne, par exemple, il existe certains types d'habitations qui sont beaucoup plus accessibles pour les personnes en situation de handicap, puis même des logements que tu peux louer en tant que voyageur à court terme. Il y a toutes sortes d'initiatives un peu partout comme ça qu'on fait comme « Ah, OK, ça existe, faut juste savoir que ça existe, en fait. »
Mais il faut savoir que ça existe, il faut avoir la volonté aussi de mettre ça en place dans nos
Exactement.
Communautés. Est-ce que tu penses qu'il y a... Qu'on a un manque de volonté envers l'accessibilité universelle?
Est-ce qu'on a un manque de volonté?
Au niveau des décideurs publics?
Je pense que oui. Oui, il y a définitivement un manque de volonté, un manque de financement. on se rend compte, en fait, on s'est rendu compte en faisant l'émission puis en discutant avec beaucoup de nos invités qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de politique nationale pour l'accessibilité universelle. Mm. C'est ça qui manque, en fait. C'est de la volonté politique de dire notre objectif, c'est ça. On a l'impression qu'on y va par petits projets à gauche et à droite, mais il n'y a pas de ligne directrice claire qui nous amène vers un objectif qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est une question de sensibilisation. On se rend compte aussi, évidemment, que dans certains cas, il y a certains décideurs qui sont prisonniers des budgets qu'on leur alloue. On peut penser notamment à la STM. Je ne pense pas que la STM manque de volonté pour rendre son réseau plus accessible. Qu'on parle des stations de métro actuellement. Le problème, c'est que le gouvernement provincial lui a coupé son financement pour aller plus loin et continuer de développer. Donc, c'est à tous ces acteurs-là de se parler entre eux et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des pistes de solutions. Mais on se rend compte que ça bloque à plusieurs niveaux différents. Puis effectivement, il y a peut-être un manque de ligne directrice, un manque de politique claire pour dire voici ce qu'on devrait faire pour que le Québec soit une société plus inclusive. Puis on se rend compte aussi que je pense qu'il y a un des enjeux qui nous touchent particulièrement au Québec, c'est qu'on est un territoire qui est très, très, très étendu. Donc, les services vont varier beaucoup d'une région à l'autre. Un des défis qu'on avait avec cette émission-là, c'était aussi de ne pas juste représenter Montréal, exactement. Oui. Donc, on avait des gens des régions qui sont venus à l'émission pour discuter de ces différents enjeux-là. On se rend compte que, par exemple, le transport adapté, c'est très différent en région. Donc, pour chaque sujet, il n'y a pas vraiment de recette magique non plus. C'est aussi d'essayer de trouver des pistes de solutions qui conviennent à chacun des milieux pour que les gens puissent en bénéficier.
Et en terminant, parle-moi un peu de toi puis de tes projets. Donc, entre autres, tu es sur Vestiaire, qui a une nouvelle saison qui sera diffusée donc à l'automne?
Non, ça devrait arriver au printemps. Sur Ami-Télé. Au moment qu'on enregistre notre entrevue, j'ai terminé le tournage de saison 3 hier. Donc, je suis encore en train de me remettre de ce tournage-là qui a été... C'est encore une super belle expérience. On est vraiment très contents. Moi, je suis sûr que la saison 3, ça va être un gros succès parce qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à la tournée. On a bien hâte de présenter ça. Puis ça va être 8 belles nouvelles émissions de sketch qui s'en viennent.
Et de ton côté, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent à part Vestiaire et Espace réservé?
Ben, en fait, depuis l'année passée, je travaille beaucoup en écriture. J'ai travaillé à l'écriture de certains sketchs sur Vestiaire cette année. Je travaille aussi en écriture sur l'espace réservé. Donc, je développe des projets qui sont plus du côté de l'écriture présentement, mais qui ne sont pas nécessairement confirmés encore. Donc, j'ai pas de scope à annoncer présentement.
Mais c'est décevant.
Mais il y a des choses qui avancent.
Et est-ce que, de ton côté, donc, tu trouves que, justement, en tant que société, on avance au niveau de l'inclusion ou est-ce que, à cause du manque de budget dont on parlait, du manque de ressources, on recule plutôt?
Je pense qu'on a fait des grands progrès, mais que présentement, on est en train d'un petit peu de stagner. Là. Je pense qu'on a ralenti, puis ça serait bien justement de relancer cet effort-là le plus rapidement possible pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Je pense que moi j'ai 40 ans, puis je pense que le progrès que j'ai vu dans les 20 dernières années, il est réel, il est là, il y en a un absolument. Mais il faut pas s'asseoir sur ce qui a été fait puis dire bon ben voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, puis maintenant c'est terminé. Je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour continuer, puis il faut malheureusement crier plus fort pour que ça se fasse, puis convaincre les décideurs en fait de poursuivre le financement pour notre société.
Est-ce que tu as l'impression qu'on s'assoit un peu sur nos lauriers à dire oui, ben on est une société inclusive, donc on a des services pour les personnes en situation de handicap, donc le travail est fait finalement?
On aime bien le dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai?
Je sais que c'est pas vrai. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ça, là, notre idée en tant que province québécoise, de dire oui, on est inclusif, puis le travail est fait?
J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, parce que je pense que, dépendamment de selon quel angle on le regarde, c'est très différent. Mais ce qui nous manque vraiment, c'est une politique provinciale qui donnerait une direction claire. Je pense que, en fait, ce qui nous manque présentement, c'est vraiment un gouvernail, une direction qui va nous dire voici c'est quoi notre objectif. Présentement, en fait, les décisions sont trop éparpillées selon les petits projets. Donc, bon, après ça, on aurait beau dire oui, on est inclusif. Il suffit de le vivre pour savoir qu'on sait que c'est pas très vrai pour l'instant. Donc, qu'il y a encore du travail à faire. Donc, je pense qu'il faut pas s'asseoir sur ce qui a été fait puis se dire que c'est terminé. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là.
On espère qu'il y aura des avancées, puis on espère qu'Espace réservé donc aura un impact pour faire avancer les choses de ton côté, du côté de Dominique, que ça puisse donc avoir un écho, puis que ça soit bien reçu. Quand même, Vestiaire a été bien reçu, a fait connaître Amitié beaucoup, j'ai l'impression. Donc, on espère un peu la même chose avec Espace réservé.
Oui, puis il nous reste encore beaucoup de thèmes qu'on aimerait aborder dans d'autres saisons futures. On commence déjà à discuter de ce qu'on aimerait aborder dans l'avenir. Donc, on s'est rendu compte qu'on a peut-être, avec cette saison 1 d'Espace réservé, on a touché à la pointe de l'iceberg, mais il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait discuter à l'édition.
Tu m'emmèneras, il y a Scoop pour l'année prochaine. On attend le Scoop de la saison 2.
On pourrait s'en reparler.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Donc, Espace réservé commence à la fin du mois de février. Ce sera en onde sur Amitié et ce sera aussi sur Internet, ça, j'imagine.
Oui, ce sera sur AmiPlus.
Parfait, merci. Puis on te souhaite bonne chance avec les projets et à Dominique également. Puis on verra dans les prochains mois comment c'est reçu puis si on aura droit à une saison 2.
Oui, on se le souhaite.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.